Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Salut Maxime et bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui parle de reconversion professionnelle et d'actualité du web et qui est diffusée tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Bienvenue Maxime.
Bonjour Nathalie.
Comment vas-tu Maxime?
Eh bien écoute, très très bien et toi?
Ça va bien. Tu es là pour nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et de tes reconversions, parce que tu n'en as pas fait qu'une. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Maxime?
Eh bien, écoute Nathalie, moi c'est Maxime Boss, donc j'ai 36 ans, je travaille à Lyon et j'ai été pendant 15 ans conseiller politique auprès de divers élus dans l'agglomération lyonnaise. Et je suis depuis maintenant près d'un an professeur permanent et responsable des masters à l'Institut supérieur de gestion de Lyon, donc qui est une école de commerce. Et en parallèle, je suis également formateur auprès du groupe Adeco Training pour des entreprises, des élus et des associations, et également intervenant professionnel dans différentes écoles comme le Centre de management hôtelier de Lyon ou comme l'Institut supérieur de communication de Lyon, l'ISEG. Voilà.
Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi j'ai trouvé que ce serait intéressant de te faire intervenir sur cette radio pour parler de ton parcours aux auditeurs de RLP?
Parce que j'ai un parcours assez atypique et puis que je suis aussi rentré dans le cadre de la reconversion professionnelle un peu sur un déclic personnel. Je pense que c'est un peu ça.
Sur un déclic personnel. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Quels sont les différents métiers que tu as exercés?
Alors, j'ai enseigné à l'université, j'ai eu mon agence de communication pendant quelques années, et puis comme je l'ai dit, conseiller politique aussi sur une quinzaine d'années. Voilà ce que j'ai exercé avant d'être aujourd'hui du coup professeur permanent et formateur professionnel.
Juste pour l'anecdote, tu peux nous dire à partir de quel âge tu as commencé à enseigner à l'université?
Mes premiers cours que j'ai donnés à l'université, j'avais 23 ans.
23 ans, quand même, sacré démarrage.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, on ne s'en rend pas bien compte, mais effectivement, à l'époque, j'étais plus jeune que certains de mes étudiants. Donc, c'était assez impressionnant, effectivement, les tout premiers cours, et notamment mon premier cours magistral où je devais intervenir devant 250 étudiants en amphithéâtre. Et effectivement, c'est un sacré souvenir. Et encore aujourd'hui, c'est assez structurant parce que je pense que ça a été à cette époque-là, notamment, que j'ai eu un déclic sur ma capacité à prendre la parole en public. Et d'ailleurs, je suis formateur aujourd'hui pour ça parce que je pense que ça a été aussi un autre déclic, effectivement.
Ok. Donc, tu as eu plusieurs reconversions, on est d'accord. Parfois, tu as exercé des métiers simultanément.
C'est ça, presque toujours d'ailleurs. J'ai toujours eu plusieurs cordes à mon arc. À l'époque où j'enseignais à l'université, c'est à la même époque que j'avais lancé mon agence de communication, donc avec une associée, et encore en parallèle de ça, que j'avais commencé à être conseiller politique auprès d'un certain nombre d'élus. Et donc ça, j'ai tenu pendant 2 ans jusqu'à ce que je fasse un burn-out parce que j'étais pas très raisonnable sur la charge de travail. J'ai un peu sous-estimé la charge de travail et l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Et surtout, à l'époque, j'étais très, très mal organisé. Et donc, du coup, je dépensais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour obtenir des résultats que j'obtiens beaucoup plus facilement aujourd'hui. Voilà.
Ok, donc là, tu nous livres un des secrets pour pouvoir avoir plusieurs activités simultanément. Il faut être bien organisé.
C'est ça, très organisé et puis surtout, en fait, apprendre déjà à bien se connaître, c'est-à-dire savoir comment on fonctionne, maîtriser également le temps de repos nécessaire pour se remettre, parce que le tout, c'est pas de travailler intensément et efficacement, mais c'est de s'accorder du temps de repos qualitatif et notamment du temps de sommeil suffisant. Parce que, par exemple, on peut être tenté, quand on est jeune et plein d'énergie, de se dire, je vais rogner sur le sommeil, ça va me permettre de tomber davantage de travail. Et en réalité, c'est juste une fuite en avant qui nous amène tout droit vers le burn-out professionnel à ce niveau-là. Pareil pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est de l'activité physique, pour ce qui est de l'hydratation, pour ce qui est de l'importance également de déconnecter des réseaux sociaux, des notifications du téléphone et des écrans en règle générale. Enfin, c'est ce que j'appelle moi maintenant dans mes cours et dans mes accompagnements les cinq piliers de la productivité. Et effectivement, ça m'a fait prendre conscience que si on ne maîtrisait pas ces cinq paramètres-là, il était assez illusoire de penser être productif et efficace sur la durée, quoi.
Merci beaucoup. Tu as vécu un burn-out et tu en as tiré des leçons.
Et puis surtout, la prise de conscience de la nécessité d'une véritable introspection. C'est-à-dire, je suis toujours surpris, parce que moi, quelque part, c'est mon burn-out, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, hein, qui me l'a appris, mais je suis toujours surpris du nombre de personnes qui ne se connaissent pas vraiment et qui, en réalité, pensent que en implémentant une méthode qu'ils ont lue ou entendue quelque part, sans se poser la question de est-ce que c'est fait pour eux ou pas, ben vont d'échec en échec et puis en pensant à terme qui en fait ils sont nuls, alors qu'en fait c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Enfin, en tout cas, pas celle qui leur convient. Et pareil pour ce qui est de l'alimentation, de l'hydratation et du repos, c'est assez impressionnant à quel point on est très peu formé et très mal formé sur ces sujets-là. Et à quel point, ben oui, mal manger, ça a un impact sur tout le reste, y compris la productivité. Et donc, le nombre de personnes que je vois, par exemple, pour être productif, juste avaler rapidement un sandwich sans valeur ajoutée en un quart d'heure à midi pour dire, ben, comme ça, j'ai plein de temps pour bosser. Ben, en fait, à quel point, en réalité, ils sont contre-productifs à long terme. Et ça, par exemple, voilà, pareil pour ceux qui s'hydratent très peu ou très mal. Et c'est vrai qu'on pourrait aller loin dans ces explications-là, parce que ça nécessite beaucoup de prise de conscience, beaucoup de prise de recul et de s'organiser pour faire ces choses-là bien. Voilà. Et ça, c'est important de prendre ce temps-là.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Alors, je ne sais pas si tu connaîtras le monde, mais tire-toi loin.
C'est ça. Ben en tout cas, tu éviteras tu mériteras de finir en burn-out au bord de la route en pensant que ces choses-là sont pas faites pour toi, alors que juste tu t'y es mal pris. Et qu'en réalité, en t'y mettant bien, tu pourrais obtenir des résultats très différents.
Donc, connais-toi toi-même et tu éviteras de te prendre le monde dans la face.
C'est ça, c'est ça. En fait, de te prendre les pieds dans le tapis déjà pour
Burn-out.
commencer. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses. Bah, une des citations que je donne toujours beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est une citation de James Clear qui pour moi est assez vraie, c'est « On ne se hisse pas à la hauteur de ses objectifs, on plafonne à la hauteur des moyens qu'on déploie. » Et ça, c'est extrêmement important parce que se poser la question des moyens, c'est déjà répondre en grande partie à ce que l'on pourra faire ou pas.
C'est rigolo parce que tu dis quand j'ai fait mon burn-out il y a 10 ans, alors que tu as, donne-nous ton âge, Maxime.
Bah, j'ai 36 ans.
Donc tu as fait un burn-out super jeune, en fait.
Ah ben oui.
Voilà.
Oui. Enfin, maintenant, ça fait même 12 ans puisque j'ai fait mon burn-out à 24 ans. Oui.
Donc tu es précoce de burn-out.
C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, attention, hein, c'était pas le gros burn-out qui m'a emmené au fond de mon lit pendant des semaines. C'est que, en fait, j'ai senti mon corps lâcher. Et c'est parce que j'ai senti mon corps lâcher que là, tout de suite, j'ai réduit la voilure. J'ai arrêté de donner des cours à l'université, j'ai laissé ma boîte à mon associé et je me suis concentré sur le conseil politique. Voilà, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix, voilà, j'ai dû faire un choix radical pour me retrouver avec un volume soutenable. Voilà.
Très bien. Est-ce que tu te définis comme un multipotentiel?
Alors, est-ce que tu peux me définir multipotentiel pour que je sache si je pense correspondre?
C'est quelqu'un qui a simultanément des potentiels très forts dans des domaines très différents.
Alors oui, alors potentiel très fort, je ne sais pas, ce serait un peu présomptueux de le lire, mais en tout cas des potentiels dans plein de domaines, oui, parce que je suis quelqu'un par nature de très curieux, de très éclectique, et il y a vraiment une chose que j'adore faire, c'est faire des liens entre mes différents types de connaissances. Je prends un exemple, je suis passionné d'histoire, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire moderne, à l'histoire contemporaine. Et notamment tout à la période napoléonienne. Et comme je suis également passionné de management, il se trouve que, bah, par exemple, aujourd'hui, je suis en capacité de faire des liens entre mes apprentissages en histoire, mes apprentissages en management, avec notamment le fait de pouvoir déceler les stratégies de management mises en place par Napoléon, par exemple, au sein des guerres napoléoniennes, sur comment motiver les troupes, sur comment organiser la campagne, sur comment planifier, sur comment déléguer, sur comment structurer, sur comment visualiser l'adversaire. Et enfin, toutes ces choses-là, c'est assez passionnant de pouvoir justement les croiser et créer et créer de nouvelles connaissances par ces croisements-là. Alors là, je donnais cet exemple-là, mais il y en aurait plein d'autres sur la musique, sur la littérature, sur les différents arts, sur la géographie, sur la géopolitique. Enfin voilà, je suis très, 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 très éclectique pour le coup.
Ok, tu fais des liens entre des domaines d'expertise très différents les uns des autres.
C'est
et ça,
ça.
Nourrit chaque domaine, en fait.
Voilà, et en fait, chaque domaine nourrit les autres. En fait, c'est ce que j'appelle, en termes organisationnels, la stratégie de l'entonnoir, c'est-à-dire prendre plein de choses que l'on aime faire naturellement et essayer de les faire converger autant que possible dans une seule et même direction. Et en réalité, bah souvent, c'est possible. Et ça permet, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, de mêler l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que tout ce qui vous est agréable, réfléchissez à le rendre utile. Et tout ce qui vous est utile, réfléchissez à le rendre plus agréable. Et généralement, là, vous aurez trouvé une méthode pour en envie et en volonté tout au long du parcours.
Merci, Maxime. Alors, tu as vécu plusieurs reconversions. La dernière reconversion que tu as vécue, c'était quoi ton métier avant et ton métier après?
Alors du coup, la dernière reconversion que j'ai faite, c'est en partie grâce à toi. C'est ma conversion pour sortir de mon job de conseiller politique, donc qui était devenu ma principale activité de très loin, même si j'avais recommencé à donner des cours déjà dans différentes écoles en parallèle et à former des personnes. Mais en tout cas, le conseil politique était mon activité principale et je voulais en changer. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'événement personnel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'arrivée de mon fils, parce que je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui et qui m'a beaucoup challengé, en fait, qui m'a amené à réinterroger beaucoup ma trajectoire personnelle, ma trajectoire professionnelle et m'a amené aussi à me poser la question de comment je lui préparais son avenir à lui, qu'est-ce que je devais faire pour que les choses se passent au mieux, pour avoir un équilibre de vie aussi un peu plus stable. Donc, du coup, ça m'a amené à sauter le pas parce que l'autre raison de ce changement, c'est que j'étais arrivé, je dirais, à un plafond dans mon job actuel, c'est-à-dire que si je voulais continuer à évoluer, j'avais deux grandes possibilités. La première, intégrer un ministère, ce qui m'a été proposé, mais qui ne m'apparaissait pas acceptable en termes de rythme de vie. Surtout si j'avais vocation à devenir papa, ce qui était un de mes objectifs. Et le deuxième, c'était de devenir soit directeur de cabinet, soit chef de cabinet dans une grande collectivité territoriale, ce qui avait quasiment le même genre d'implication en termes d'horaire et en termes de quantité de travail. Ces deux choix n'étant pas pour moi acceptables, si je voulais continuer d'évoluer dans ma carrière, il était évident qu'il fallait que j'en change. Et c'est là que du coup, je t'ai sollicité pour faire le bilan de compétences que l'on a fait ensemble, afin d'explorer les différentes voies possibles pour moi et d'identifier la meilleure parmi tous les domaines qui me plaisent et qui étaient des domaines potentiels de développement d'activité. Et donc, du coup, c'est à l'issue de ce bilan de compétences que lorsque le hasard de la vie a fait qu'on m'a débauché pour devenir professeur permanent et enseignant principal en management et gestion de projet, du coup, j'ai su qu'il fallait que je dise oui, puisque ça faisait partie des pistes les plus solides que nous avions obtenues comme résultat du bilan de compétences ensemble. Donc, la question s'est pas posée longtemps. Voilà.
Et félicitations aussi pour être passé à l'action, parce que souvent les gens font des plans, mais ça ne bouge pas forcément pour autant. Ce n'est pas très utile de faire des plans si on ne se bouge pas juste après. Tu as une proposition. Quel est ton premier bilan?
J'en suis très satisfait, parce qu'en fait, l'avantage quand on se fait débaucher, c'est que bien évidemment, on est en bonne position pour négocier des conditions qui nous conviennent. Donc, j'ai eu cette chance-là de bien négocier mon contrat, donc ce qui m'a laissé beaucoup de temps disponible pour mes activités annexes. Du coup, j'ai pu développer en parallèle mon entreprise, parce que ça aussi, c'était l'une des deux pistes principales qui sont sorties du bilan de compétences. C'était soit l'enseignement, soit l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai fait le choix d'arrêter le conseil en politique, mais j'ai fait le choix de ne pas choisir entre les deux, c'est-à-dire de mener les deux de front et du coup de démultiplier mon activité entrepreneuriale à côté et d'augmenter mes cours dans d'autres écoles, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette chance-là de vivre de l'ensemble de ces activités tout en ayant un CDI à temps partiel, donc en tant que professeur principal à côté, ce qui amène la sécurité et en même temps le potentiel de développement d'activité.
Très intéressant. Un CDI pour la sécurité, pour le côté familial aussi, peut-être faire des emprunts, et quand même la possibilité que tu t'es offerte de te développer d'un point de vue entrepreneurial avec une entreprise à côté. Quand est-ce qu'on fait appel à toi, Maxime ?
Alors moi, on peut faire appel à moi quand on a envie de, grosso modo, de passer à l'action. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez tendance à procrastiner vos projets, c'est-à-dire à avoir des idées plein la tête et justement à ne jamais passer à l'action, à toujours vous dire ah mais il me manque une information de plus, ou ah il me manque des moyens, ou ah il me manque les contacts, ou ah il me manque du matériel. Si vous avez tendance à douter de vous-même, à vous demander, mais est-ce que j'ai la capacité de le faire? Eh ben, ça, généralement, moi, j'interviens pour vous aider à vous structurer, à vous organiser, parce que, en lien avec la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est qu'une question de moyens. C'est-à-dire que la mise en place des bons outils, la mise en place des bonnes routines de travail, la mise en place du bon état d'esprit et de la régularité dans l'effort, ben c'est ce qui va faire décoller ou non votre projet, en fait. Vous n'allez pas avoir un moment le grand déclic qui va faire d'un coup, ça y est, tout devient évident, tout devient facile et toutes les difficultés sont surmontées. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, c'est toutes les personnes qui ont des grands résultats sont des personnes qui travaillent en continu et qui font de la régularité dans leur effort. Je prends toujours cet exemple-là, mais c'est comme si vous voulez vous mettre au sport. Ben moi, je peux vous accompagner à organiser le fait que vous commenciez le premier jour à faire une pompe, le deuxième jour à faire deux pompes, et que à la fin, dans 2-3 mois, vous fassiez 500 pompes par jour facilement. Mais si vous pensez que vous devez attendre d'être en capacité d'un coup de faire 500 pompes du jour au lendemain avant de vous lancer, alors c'est sûr que vous vous lancerez jamais. Et c'est ça, en fait, un peu l'état d'esprit que j'essaye d'implémenter chez les personnes que j'accompagne. Généralement, ça marche plutôt bien. J'en veux à preuve d'exemple. Là, actuellement, je suis en train de lancer un incubateur au sein de l'Institut supérieur de gestion de Lyon. Donc, j'ai eu l'autorisation au sein de l'école de lancer ça. Et là, j'accompagne actuellement 4 groupes d'étudiants dans le déploiement et le développement de leur projet. Et ils sont surpris eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que quand je les ai challengés pour leur dire, ben, lancez-vous. Ils m'ont dit, mais monsieur, on saura jamais, on pourra jamais, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances, mais vous vous rendez compte, on est encore seulement étudiant. Et puis, je leur ai dit, mais si, si, allez-y, lancez-vous, on va tester des choses ensemble. Et en fait, ils se sont lancés, ils évoluent. Et là, toutes les semaines, on fait des points d'étape. Toutes les semaines, tous les vendredis soirs, on a point d'étape ensemble. Comme ça, on fait le feedback, je leur fais des retours, je leur pose des questions, on réorganise leur emploi du temps si besoin. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils avancent beaucoup plus vite qu'ils l'imaginaient et ils obtiennent des résultats qui dépassent tout ce qu'ils avaient imaginé jusque-là, quoi. Et ça, c'est de la bête méthode, c'est de la bête technique.
Ok, félicitations pour le lancement de l'incubateur, c'est un beau projet. Est-ce que tu t'adresses également aux professionnels, aux structures, parce que ça, c'est quand même des compétences qui peuvent intéresser des collectifs?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est notamment pour ces questions-là également que je travaille auprès d'Adéco Training. Parce que ces missions-là, je les fais aussi en lien avec des professionnels. Ça peut être soit des personnes qui, après avoir fait un bilan de compétences, se disent, ben, je me lancerai bien dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas comment faire. Auquel cas, ben, là, pareil, je peux aider la personne à mettre en place le processus pour se lancer. J'interviens également dans des entreprises qui ont des équipes projet, par exemple, qui peinent à avancer, qui peinent à se structurer, qui peinent à s'organiser. Donc, dans ce cas-là, moi, je viens et je les accompagne à se structurer, à s'organiser et notamment à répartir le travail de la manière la plus efficiente qui soit. Parce que souvent, par exemple, dans un groupe de travail, on va avoir tendance à vouloir répartir la même charge de travail également entre tous les membres, alors qu'en fait, il y en a certains qui ont des compétences particulières qui, sur certaines tâches, vont performer à fond et qu'il serait potentiellement intéressant de leur envoyer à chaque fois qu'il y a une tâche comme ça à eux, plutôt que de les charger avec d'autres choses ou sur lesquelles d'autres sont beaucoup plus compétents qu'eux. Et du coup, en optimisant comme ça, plutôt que d'être dans la logique de on répartit équitablement, la logique, ce serait plutôt de répartir efficacement. Et ensuite, une fois que c'est réparti efficacement et que les choses tournent, réfléchir à comment on réintroduit de l'équitabilité là-dedans, plutôt que de se poser la question à l'inverse. D'abord performer et ensuite réfléchir comment on fait en sorte que ce soit juste, plutôt que de juste se dire il faut que ce soit juste, peu importe si ça performe ou pas, par exemple.
Je vois le problème. Les discussions interminables sur c'est juste, c'est pas juste, c'est trop injuste, dans lesquelles
Voilà.
très vite beaucoup sont embourbés. Et effectivement, ces discussions interminables au détriment de l'efficience, hein, globalement, des processus, c'est assez terrible. Et il faut s'en prémunir, il faut en être conscient, parce qu'il y a des discussions dont on ne sort pas, qui peuvent durer des mois, des années, et des fois, je rigole. Pour ton info, moi aussi, j'accompagne la création reprise d'entreprise. Est-ce que tu as des préférences dans ce type d'accompagnement?
Pas spécifiquement, moi, c'est plutôt des profils. Généralement, c'est plutôt. Je vais reprendre une phrase qui est connue, mais Je préfère quelqu'un qui a un bon état d'esprit, mais des idées de merde, que quelqu'un qui a des bonnes idées, mais un état d'esprit pourri. Et parce que quelqu'un qui a un bon état d'esprit, on trouvera toujours un moyen de faire marcher. C'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est capable d'implémenter des méthodes, quelqu'un qui est capable de se remettre en question, quelqu'un qui perd jamais son entrain. C'est Churchill qui disait: la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent, ils vont d'échec en échec sans perdre leur entrain. Et ben, ça, pour moi, c'est très important que les personnes en face de moi soient ouvertes. Voilà. Et donc, voilà, c'est plutôt des personnes que je rencontre en fonction de si ça match ou si ça match pas à ce moment-là. Voilà.
Okay. C'est marrant, je fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à m'investir ou pas dans un projet selon est-ce que je crois dans le potentiel de la personne. Voilà. Et ça va passer par plein de petits indicateurs, sa capacité à effectivement mettre de l'énergie, à être ce que j'appelle smart aussi, c'est-à-dire bien faire les choses consciencieusement. Ça se voit dans tous les spectres de la vie de la personne. Quand tu regardes et quand tu vois que la vie privée, elle est en vrac, que tout est en vrac, tu te dis que peut-être s'il crée un projet entrepreneurial, ça a des chances d'être en vrac, tu vois. Si c'est quelqu'un qui ne tient pas ses délais, arrive toujours en retard, ne comprend pas ou mal les consignes, etc., c'est un très mauvais indicateur. Alors que quelqu'un qui a tendance dans toutes les sphères de sa vie à se tenir à sa parole et à faire bien les choses, alors quand je dis se tenir à sa parole, c'est pas forcément rester crispé sur le projet numéro un. Hein. Attention, un projet, c'est fait pour évoluer, c'est vivant. Mais en tout cas, quelqu'un qui va structurer effectivement un projet, éventuellement le faire évoluer, faire le nécessaire toujours et le faire correctement pour que ça évolue positivement. Et voir quelqu'un qui est capable aussi de faire une remise à zéro et recréer un bon projet là-dessus, mais qui fait toujours les choses bien, là, ça va vraiment me donner envie d'y aller. Quand je sens que, évidemment, il y a de l'envie, de la motivation, qu'il y a de la niaque, parce qu'on est quand même dans le monde de l'entrepreneuriat, et qu'en même temps, les choses sont bien faites, là, tous les feux sont ouverts et j'ai envie d'y aller avec ce type de personne. D'ailleurs, c'est le genre de personne que tu retrouves très longtemps dans une vie. En fait, moi, il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je les connais, et en fait, c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est des gens hyper fiables. Et je crois qu'on parle pas assez de cette qualité qui est la fiabilité chez quelqu'un et sa constance. Et je crois que ça va avec le fait également de faire les choses bien et une forme d'intégrité. Tu vois, dans le projet, le projet peut évoluer, mais ça ne bouge pas. Ça reste. Et c'est vraiment une qualité que j'apprécie chez quelqu'un qui me donne envie de mettre des billes dans un projet. Quand je dis des billes, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi du temps, de l'énergie. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, bah, tu vois, pour illustrer ça, moi, j'ai investi il y a quelques mois de ça dans un restaurant. Voilà, je suis actionnaire minoritaire d'un restaurant auprès d'un porteur de projet en qui j'ai cru. Parce que, ben voilà, le mec, il est fiable, il est solide, il est travailleur, il est toujours volontaire, il essaye toujours de trouver des solutions. C'est-à-dire que, ben, il se cache pas derrière le grand méchant monde. Hein. C'est pas le monde, il est méchant et moi, je suis gentil et c'est la faute d'eux quand il y a un problème. Il se pose toujours la question de comment je peux régler la situation. Et du coup, ben, je crois en lui. Je lui fais confiance, donc j'ai investi dans son restaurant pour l'aider à l'ouvrir. Donc ça, c'est pour moi, voilà. Donc je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire. Il y a des profils comme ça. Et à l'inverse, alors parfois il m'arrive quand même de prendre des personnes en vrac, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je me rends compte que le vrac est dû notamment à un problème, ou plusieurs problèmes en général, parce qu'ils vont par plusieurs souvent, dans les cinq piliers de la productivité et du bien-être dont je parlais tout à l'heure. Donc, je répète pour les auditeurs, mais c'est donc bien dormir, c'est-à-dire suffisamment et avec suffisamment de qualité, bien manger, c'est-à-dire en règle générale, essayer de manger équilibré et de la nourriture de qualité. Quand je dis en général, ça veut dire que 5 jours par semaine, bien manger et s'autoriser 2 jours des écarts, ça le fait, hein, qu'on rentre pas dans un couvent non plus. S'hydrater suffisamment, ça souvent c'est sous-évalué, mais le fait de s'hydrater régulièrement et en qualité paraît c'est important. Faire un peu de sport, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière, ne serait-ce que marcher, l'équivalent d'une demi-heure de marche par jour. C'est-à-dire, c'est pas besoin de faire beaucoup plus, hein, mais en tout cas marcher à minima pour oxygéner le cerveau et faire fonctionner l'organisme. Et bien évidemment déconnecter des écrans parce que les addictions aux écrans, ça arrive très très vite et généralement ça pourrit tout le reste. Et ben souvent les personnes qui sont en vrac, il y a plusieurs de ces piliers qui sont pas respectés. Et ce qui va me faire choisir de les accompagner ou pas, c'est la réaction qu'elles vont avoir quand je vais leur montrer les cinq piliers. Si la personne, au moment où je lui dis les cinq piliers, ces cinq piliers-là sont pas respectés, ma première étape, ça va être de vous les faire mettre en place comme il faut. Si je vois que la personne me dit ah bah non mais ça c'est impossible ou ça ne l'intéresse pas, là j'abandonne tout de suite. Je me dis bah alors là je peux implémenter ce que je veux derrière tant qu'il n'y a pas ces cinq piliers là, je peux pas vraiment aider cette personne. Voilà. Et par contre une personne en vrac qui va me dire eh ben allez let's go, j'ai envie de m'en sortir, on va y aller. Et ben là on va mettre en place un accompagnement. Il y a quelques années j'ai réussi à accompagner un de mes amis comme ça, qui avait fait tomber ses cinq piliers parce que justement il avait une addiction aux écrans et en fait l'addiction aux écrans l'avait amené à regarder son téléphone jusqu'à 2h du matin, donc à bousiller son rythme de sommeil. Son rythme de sommeil avait eu un impact sur sa volonté et son énergie la journée, donc comme il était crevé il s'était mis dans la junk food pour pas avoir à faire à bouffer, et en fait on faisait tout le cadran et en fait il avait fait sauter ses cinq piliers avec seulement l'addiction, parce qu'en plus à la base c'était un grand sportif mais il trouvait plus la motivation d'aller à la salle de sport, enfin bref, et il avait pris 20 kilos en un an. Et du coup, comme je savais que c'était quelqu'un quand même qui, en règle générale, était quand même plutôt fiable, qui quand il s'engageait dans quelque chose, avait plutôt tendance à tenir parole, à partir du moment où il m'a dit « Ok, j'essaie de reprendre ma vie en main », eh ben, je l'ai challengé, on a mis en place un accompagnement et en 6 mois, il a perdu 10 kilos et il s'est remis au sport et il a retrouvé un équilibre de vie qui lui a permis de rebondir. Et là, actuellement, ça y est, il a repris du boulot, il a à nouveau plein de projets annexes, parce que c'est quelqu'un qui est toujours très créatif quand il est dans les bonnes conditions, et ça fait plaisir de le voir comme ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est des profils où je me dis, voilà, si la personne, elle a envie de s'en sortir, alors ouais. Par contre, si la personne, elle n'a pas envie de s'en sortir, alors là, c'est pas moi qu'il lui faut, c'est un psy. Voilà. Il faut déjà qu'elle règle quelque chose d'autre.
C'est marrant ce que tu dis. Je reprends tes termes tout à l'heure. Tu parlais du grand méchant monde et ne pas se cacher derrière le grand méchant monde. C'est vrai que des fois, le grand méchant monde est méchant. Tu vois, tu as une guerre sur ton territoire, tu as une énorme crise dans ton secteur et tu ne peux pas grand-chose. Mais je remarque que les gens qui, quelque part, sont bien structurés. J'ai un peu la caricature de ça en tête. Tu vois, c'est le profil Alec Henry. Ils vont toujours se réaligner quelque part sur leur pilier de base. Un moment ou un autre, et ça va fonctionner à un moment ou un autre. Il y a des gens qui jamais ne se restructurent. Je pense qu'effectivement, c'est la différence entre avoir justement quelque chose dans sa structure ou pas. Bref, ceci est un autre débat. Il y a autre chose que tu as fait, que tu as mis en place et dont tu ne nous as pas du tout parlé, c'est que tu bosses ton anglais. Est-ce que tu aurais envie de dire des choses aux auditeurs de RLP sur l'importance de parler anglais pour son évolution professionnelle? Parce que moi, je fais le même boulot en ce moment, c'est-à-dire je fais l'anglais, et c'est une chose qu'on ne valorise pas assez, à mon avis, dans un parcours de transition pro. Tu veux bien nous en parler?
Oui, alors en fait, effectivement, donc moi je travaille mon anglais, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je me suis remis à travailler mon anglais avec plus ou moins d'assiduité, c'est-à-dire en fonction aussi bien évidemment de la réalité, de la quantité de travail que j'ai à accomplir. Mais là, actuellement, donc le travail que je mène en anglais, c'est que tous les jours, j'ai un call d'à peu près une demi-heure avec une personne qui souhaite également améliorer son anglais avec moi. Et l'idée, c'est que pendant cette demi-heure, on fait le tour de notre situation professionnelle et personnelle, 100% en anglais. Ça nous force à améliorer notre vocabulaire, ça force notre cerveau à s'habituer à pratiquer l'anglais. Et effectivement, moi qui maintenant me retrouve à devoir accompagner des étudiants, y compris dans des cours en anglais, j'aurais été absolument incapable de faire ça il y a ne serait-ce que 2 ans. Enfin, même il y a 1 an, je me serais pas senti de faire ça. Là, pas plus tard que ce matin, je corrigeais des copies de partiels de mes étudiants en anglais, sans dictionnaire à côté, en comprenant parfaitement tout ce qui était écrit et tout ce qui était expliqué, et ça sans la moindre difficulté, ce qui était le petit plaisir de la journée. Et donc ça, c'est un petit point. Effectivement, la maîtrise de l'anglais, il y a quand même assez peu de personnes en France qui le maîtrisent suffisamment pour l'utiliser professionnellement. Et donc, quand vous êtes en concurrence avec d'autres, ça peut faire la différence pour un certain nombre de contrats et notamment pour que votre activité puisse se développer en direction de l'international. Le meilleur réseau pour me contacter, c'est LinkedIn. Je publie régulièrement sur la plateforme, en ce moment principalement en lien avec l'incubateur que nous sommes en train de lancer et les étudiants que j'accompagne. Mais il m'arrive également de publier quelques conseils, quelques retours d'expérience. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je consulte mon LinkedIn tous les jours. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous souhaitez entrer en contact avec moi.
C'était Maxime pour RLP 102.3. On se retrouve lundi à 11h et dimanche à 12h30. À bientôt les amis.